préfecture,
y en a marre.
Et des préfets,
y en a marre.
Des avocats,
y en a marre.
Des rendez-vous,
y en a marre.
Reviennent demain,
y en a marre.
Après demain,
y en a marre.
Après demain,
y en a marre.
Après y a rien,
y en a marre.
Sans du squat.
Alors la zone, ça disquatte, est une émission autour du mal logement et de la précarité à Marseille, racontée par celles et ceux qui s'y confrontent. L'idée est de créer ensemble un espace où témoigner de leur parcours, leurs difficultés et leurs luttes quotidiennes, invisibilisées dans l'espace public et médiatique.
Alors la zone, ça disquatte, tu galères le troisième lundi du mois.
Et bonjour, on est sur Radio Galère, on va s'écouter Alors la zone, ça disquatte. On va faire un cycle d'émissions sur les délogements. Et avant de commencer et de vous l'introduire, bonjour Kenzo.
Bonjour.
T'as un petit texte à nous lire parce qu'il y a une actualité qui nous a semblé importante de partager. Donc je te donne la parole.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réalité marseillaise que l'on connaît trop peu, le bidonville de la Valentine. Un site précaire installé depuis un peu plus de 6 mois, mais qui accueille des familles pour la plupart vivent à Marseille depuis près de 20 ans. 20 ans de présence dans notre ville, 20 ans de travail, 20 ans de scolarisation, de démarches administratives. Et je veux le dire clairement, la grande majorité de ces habitants sont en situation régulière en France. Ce ne sont pas des personnes de passage, ce sont des Marseillais. Pourtant, depuis 2 décennies, ces familles sont régulièrement expulsées des lieux où elles tentent de se stabiliser. Et cela continue. Il y a moins d'une semaine, 150 personnes ont été expulsées d'un terrain à Saint-Pierre, sans solution durable. Certains se retrouvent à la rue, d'autres rejoignent des campements déjà saturés. Cette succession d'expulsions, sans alternative réelle, ne fait que déplacer la misère d'un quartier à l'autre. Ce matin encore, nous étions quelques habitants à nous rendre sur le site de la Valentine. Nous avons rencontré des enfants, Adam, David, Célia, scolarisés à Saint-Marcel et à Saint-Pierre. Des enfants souriants, curieux, qui parlent parfaitement français, qui connaissent bien Marseille et qui viennent nous demander si la police va venir bientôt pour qu'ils partent. Nous avons aussi discuté avec leurs parents, Marco, Eva, Sylvia, des adultes qui travaillent, qui cherchent à travailler, qui veulent simplement offrir un avenir stable à leurs enfants. Leur quotidien, pourtant, reste marqué par une extrême précarité, pas d'eau potable, des installations électriques dangereuses, des cabanes montées avec les moyens du bord. Et malgré tout cela, on y trouve une solidarité impressionnante, une organisation intense, une volonté de vivre dignement. Le bidonville de la Valentine est devenu le symbole d'un problème plus large. L'absence de solution durable pour des familles installées ici depuis des années. À chaque expulsion, on détruit des abris, mais on ne propose pas d'alternative stable. Et quelques semaines plus tard, un nouveau camp réapparaît ailleurs, avec les mêmes familles, les mêmes enfants et encore les mêmes difficultés. Les associations présentes sur place le savent bien. Elles interviennent chaque jour pour distribuer de la nourriture, accompagner les démarches administratives, assurer le quotidien scolaire ou simplement maintenir un lien humain. Sans elles, la situation serait encore plus critique. Alors la question est simple. Comment sortir de ce cycle sans fin? Car personne ne choisit de vivre dans un bidonville. Ce sont des parcours marqués par la pauvreté, l'exil, les discriminations et surtout par un manque de solutions adaptées. Et tant que la réponse se limitera à l'évacuation, rien ne changera. Parler du bidonville de la Valentine, ce n'est pas accuser. C'est rappeler que derrière chaque cabane, il y a une histoire, une famille, une dignité. C'est dire que Marseille ne peut pas accepter que des personnes installées d'ici depuis 20 ans vivent encore dans des conditions aussi indignes. Et c'est affirmer qu'il existe des solutions. Le relogement accompagné, l'accès aux droits, la scolarisation renforcée, l'insertion professionnelle et surtout une coordination réelle entre les pouvoirs publics et les acteurs de terrain. Ce que nous dit la Valentine, c'est que l'indifférence n'est plus possible, que fermer les yeux ne fera pas disparaître la réalité, et que si l'on veut une vie plus juste, plus humaine, cela commence par regarder en face ce qu'on ne voit, ce que l'on voit jamais.
Trop bien.
Alors,
merci
la zone
beaucoup.
Satisfaite sur Radio Galère.
Merci beaucoup, Kenzo, pour cette super lecture et ce texte très poignant. Merci. Et bah du coup, bienvenue sur alors la zone Sadisquat sur les ondes de Radio Galère 88.4 FM. Ici, on parle des combats menés sur la question du logement avec des personnes et des collectifs concernés. Aujourd'hui, on entame un cycle de trois émissions sur les personnes délogées et les luttes marseillaises qui ont marqué ces dernières décennies et qui continuent encore d'exister. Les délogements, ce sont ces décisions qui font que les gens sont obligés de quitter leur lieu d'habitation, parfois de manière très soudaine, et d'autres fois à l'issue de longues périodes d'incertitude et de conditions de vie dégradées. Ce qui relie ces situations aux causes différentes, c'est que les personnes concernées par ces délogements sont presque à chaque fois les mêmes. Des gens des classes les plus basses, des personnes parmi les plus précaires dans la ville, parfois même des populations de cités, voire de quartiers entiers. Et toujours dans des zones délaissées par les pouvoirs publics. À l'inverse, les quartiers bourgeois et leurs habitants, eux, n'ont pas à s'inquiéter d'être un jour délogés de chez eux.
Trois émissions donc pour comprendre les mécanismes qui poussent les pouvoirs publics à laisser pourrir les cités, à justifier de la destruction de bâtiments entiers pour y construire un nouveau quartier d'affaires, à tolérer que des proprios laissent des immeubles se dégrader pour pouvoir virer les occupants, investir, spéculer, bref, faire du fric sur le dos des gens. Trois émissions, surtout pour comprendre comment les habitants et habitantes, délogés et solidaires, s'organisent pour lutter contre ces décisions injustes aux conséquences très concrètes.
Donc, dans ces trois émissions, on aura tout d'abord une première émission qui concerne les expulsions locatives justifiées par des projets soi-disant de rénovation urbaine, qui concernent des grands ensembles tels que des cités HLM, dans le cas de notre émission, ou également des copros. On parle de la lutte à Herbel dans le 11e arrondissement de Marseille. La deuxième émission concerne les expulsions locatives liées à la transformation de l'espace public et les conséquences de la rénovation urbaine sur les habitants des quartiers impactés. Ces projets énormes modifient des pans entiers de la ville au détriment des habitants de longue date. On parle de Euromède, du quartier des Crottes et de la Belle de Mai. Enfin, la troisième émission concerne les délogements liés aux arrêtés de péril, en particulier dans le quartier de Noailles suite aux effondrements de la rue d'Aubagne. On parle des logiques de gentrification, de promoteurs immobiliers, de charte du relogement. On n'est d'ailleurs pas à l'abri d'agrandir ce cycle, car comme on vient d'en parler, les expulsions de bidonvilles ont lieu, et ça pourrait être chouette de faire une émission dessus. Bonne écoute en direct sur Radio Galère, ou en rediffusion sur notre site internet.
Alors la zone Sadisquat sur Radio Galère.
On est de nouveau sur le plateau 88.4. Bonjour à toutes et tous. Ce soir dans Alors la zone, on a Tom Tom en technique, on a Sap et Coco au plateau. On passe fort à la camarade Sacha qui nous manque. Et puis surtout, on est ravis d'accueillir nos invités Charlie, Jamila et Kenzo. Charlie, donc bonjour, tu es membre du collectif Herbel, du syndicat du logement et sociologue qui travaille sur les conséquences des rénovations urbaines. Et Jamila, salut, tu es habitante
Bonsoir.
D'Herbel et membre du collectif Il fait bon vivre dans ma cité.
C'est ça.
Kenzo, tu es apparu tel un miracle pour venir animer cette émission avec nous. On est ravis de t'avoir.
Et tu es le petit-fils de Jamila.
Et vrai, le petit-fils de Jamila qui est venu soutenir la grand-mère. Intro donc dans cette première émission du cycle des délogements. On abordera la question des délogements locatifs dans les quartiers populaires à travers des luttes menées dans les grands ensembles. En quelques chiffres, depuis 2000, c'est 160 000 logements HLM qui ont été détruits en France. En 2003, a été créée l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui pilote un programme national d'investissement destiné à engager la « rénovation urbaine » entre guillemets, de 600 quartiers populaires. Et c'est à partir de là qu'apparaissent des mots d'ordre comme « désenclavement », »,« résidentialisation », »,« mixité sociale ». Dans l'émission, on va aussi entendre le mot « bailleur social ». Donc on va vous rappeler rapidement que c'est un organisme qui loue un logement social à des ménages contre un loyer modéré. Et il peut être aussi être en charge de la construction des logements. En tout cas, notre envie aujourd'hui, c'est de pointer cette stratégie des carences structurelles dans la gestion courante des HLM par l'action publique, qui produit une dégradation des bâtiments et des espaces publics, et puis qui justifie derrière les projets de rénovation.
Et donc pour commencer cette émission, Charlie, quand on l'a préparée, tu nous as proposé de... de nous faire une petite histoire de ces grands ensembles et un petit peu de nous parler de l'agenda politique qui justifie qu'ils soient à ce point-là délaissés.
Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et donc une petite histoire en quelques mots parce que la parole la plus importante, ça sera la tienne, Jamila, après, mais peut-être déjà pour comprendre un peu cette énigme de juste pourquoi on démolit autant, donc tu l'as dit Coco, plus de 160 000 logements démolis alors qu'on sait qu'il y a une crise du logement énorme en France, donc juste pourquoi on démolit autant dans les quartiers ? Ça mérite une petite histoire un peu rapide de ces quartiers, de ce qu'on en a fait. La plupart des quartiers de grands ensembles, ils ont été construits dans les années 60-70, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à un moment il y avait une grosse crise du logement, et à un moment où la France, et on l'oublie souvent, à ce moment-là, la France a fait venir énormément de populations des anciennes colonies, descendantes de l'immigration postcoloniale, parce qu'il fallait reconstruire la France, et qu'à ce moment-là, on voulait des immigrés, voire on allait les chercher dans les pays colonisés. Il y a donc une arrivée de beaucoup de personnes, aussi une crise de logement général en France qui a fait qu'on a construit dans l'urgence tout un ensemble de cités qu'on appelle les grands ensembles, donc dans les années 60-70, dont Herbel et dont beaucoup de cités des quartiers nord. L'histoire de ces cités, c'est des histoires d'entraide, des histoires de lutte, des histoires de solidarité. C'est aussi assez rapidement, malheureusement, une histoire de la dégradation matérielle déjà, parce qu'en fait, il y a eu des carences gestionnaires très fortes dès le début. Encore une fois, on a bâti ces cités au nom de l'urgence, mais on n'a pas forcément pensé à long terme de comment mettre les moyens publics pour les entretenir. Notamment depuis les années 80, il y a une forte dégradation des cités puisque l'État fait le choix politique de moins soutenir le logement social et de plus soutenir la promotion immobilière privée. Donc il y a une baisse drastique vraiment de l'argent concrètement qui est donné pour la gestion quotidienne des cités HLM à partir des années 80. Et surtout, et ça c'est important de le dire, il y a aussi une dégradation symbolique, une stigmatisation très forte des quartiers. Les années 80, c'est le moment où on commence à entendre parler, à nous rabâcher partout dans l'espace médiatique, à saturer l'espace médiatique à propos des rodéos urbains, des émeutes, de la violence dans les quartiers, des jeunes, de l'ensauvagement, etc. Ça apparaît dans ces années-là. Et s'impose petit à petit au sommet de l'État l'idée que le problème des quartiers, en fait, ça serait les habitants des quartiers. Et qu'en fait, les quartiers, ça serait qu'une sous-culture de la violence, des gens qui se tirent vers le bas, une culture de la galère, de l'économie informelle, du deal, etc. Donc, il y a une espèce de ce qu'on appelle la théorie du ghetto qui s'impose en France. Et qui aboutit du coup dans les années 2000 à cet impératif qui est porté par l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, de casser les ghettos. Autrement dit, l'idée c'est que puisque le problème des quartiers, ça serait qu'il y a trop de gens qui se ressemblent au même endroit, trop de personnes racisées, trop de personnes pauvres et que ça les tire vers le bas parce qu'en fait il y a une sous-culture violente, etc. Et ben il faut dédensifier, faire de la mixité sociale et donc démolir, ça réglerait le problème des quartiers. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de militants et de militantes des quartiers qui disent bah en fait non. Peut-être le problème des quartiers, c'est que les logements se dégradent, qu'il n'y a pas assez d'écoles, qu'on n'est pas assez accessible en termes de transport, qu'il y a des problèmes de santé publique. Bref, tout un ensemble de services publics sont carencés. C'est peut-être ça le problème, plutôt que le fait qu'on soit trop dans nos bâtiments et qu'on se tire vers le bas. Mais concrètement, au sommet de l'État, l'idée qui s'impose, c'est qu'il faut casser. Et donc ce qui se passe, c'est que du coup, depuis le début des années 2000, quand un bailleur social, il veut obtenir de l'argent de la part de l'État pour rénover ou entretenir son parc, donc autrement dit ses logements quoi ou ses espaces publics, et ben il doit candidater à cette fameuse agence, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui va lui donner des sous pour réhabiliter et entretenir le logement que si il s'engage à démolir. Parce que encore une fois, l'impératif national, c'est qu'il faut démolir le plus possible. C'est ce qui crée des situations totalement absurdes où des bâtiments qui vont très bien, en tout cas dans lesquels les habitants sont heureux d'habiter là, dans lesquels il fait bon vivre, pour reprendre le nom de l'assaut de Jamila, vont être démolis parce que, par exemple, donc ça nous amène à Herbel, pour obtenir des sous pour réhabiliter ce dont il y a besoin, parce qu'en effet, les bâtiments, ils ont besoin d'être entretenus, les espaces publics ont besoin d'être rénovés. Pour rénover tout un ensemble de bâtiments de la cité, bah, le bailleur social a dû promettre à l'État qu'il allait démolir plus de 200 logements. En admettant, et ça nous est arrivé quand on était en conflit, qu'on se battait contre les démolitions Herbel, parfois en admettant qu'en fait, lui-même trouve ça absurde. Autrement dit, les bailleurs sociaux, les chefs de projet, parfois disent eux-mêmes, bah ouais, en fait, on n'est pas sûr qu'il y avait besoin de démolir tel bâtiment de la cité, mais si on s'engageait pas à démolir ce bâtiment, l'État nous aurait jamais filé de sous pour entretenir le parc, rénover le centre social et régler les problèmes courants qu'il y a dans les bâtiments, quoi. Donc voilà, l'histoire des quartiers, je pense, c'est beaucoup l'histoire d'une stigmatisation et d'impératifs très quantitatifs, de démolir très médiatiques, qui sont imposés au sommet de l'État et qui n'ont pas forcément répondu aux préoccupations quotidiennes courantes des habitants, mais plus en fait au fait qu'il fallait médiatiquement répondre à tous les fachos et tous les gens qui disaient « mais les quartiers sont gangrénés, faut casser, faut démolir, etc. »
Ok, Trop bien, merci. Et du coup, après, on va un petit peu aborder spécifiquement le cas d'Herbel. On va s'écouter une petite musique qui a été choisie par toi, Jamila, et dont le titre te fera réagir, je suis sûr, après qu'on l'ait écouté.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau. C'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, 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 paroles. Paroles, encore des paroles.
On est de retour sur le plateau de Alors la zone, ça disquatte.
C'était trop court.
Jamila, tu fais donc partie d'une association de défense des droits des locataires à Herbel, dans le 11e arrondissement.
C'est ça.
Où vivent plus de 1200 familles, soit 6000 habitants. Et si on a bien compris, il y a eu trois grands moments de lutte. Il y a eu la légionellose et les batailles qui s'en sont suivies. On rappelle qu'il y a eu un mort et 273 victimes reconnues par la justice et indemnisées en 2023 lors du procès de l'eau polluée contre trois bailleurs sociaux, Unifil, Logirem et Relia. Une lutte pour de meilleures conditions de logement et la lutte autour du relogement des personnes délogées. Nous, on voulait commencer l'émission en te demandant « Il fait bon vivre dans ma cité, pourquoi ce nom de collectif ?» Et si tu peux nous décrire un petit peu Herbel pour toi et c'est comment en fait de vivre à Herbel ?
Alors, pourquoi il fait bon vivre, effectivement? Merci, bonsoir de m'avoir, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission, qui est très importante pour nous tous. Quand j'ai choisi le nom de l'association, c'était vraiment, avec tout ce qu'on a vécu, comment était notre quartier à l'époque et comment il est ce qu'il est devenu, ça veut un peu tout dire, c'est un peu de l'ironie, où on le prend bien, où on le prend mal, où on vit bien, où on le vit mal. Actuellement, les locataires le vivent très très mal. On a cette rénovation qui se passe très mal, ces relogements qui se passent aussi très mal, parce que les personnes doivent quitter leur logement qu'ils y habitent depuis plus de 50 ans. Là, aujourd'hui, ils se retrouvent à partir, à être relogés, parce qu'on va structurer leur bâtiment ou détruire leur logement. Et voilà, pourquoi ce nom ? Ça veut un peu tout dire, je vais donner quelques exemples. Effectivement, nous avons eu cette lutte par rapport à la légionnelle que nous avons gagnée. Bon, ça, bon, on est passé. Aujourd'hui, on a repris avec les garçons, Charles, Camille, un peu tout le monde, on a repris par rapport à ce fameux projet PRU que nous avons monté haut et fort sur Paris. On était fiers, mais le résultat aujourd'hui n'est pas ce qui était attendu. Aujourd'hui, on se trouve beaucoup avec des problématiques. On se retrouve avec beaucoup de personnes isolées, qui pleurent. C'est pas ça. Un PRU ne doit pas se passer comme ça. C'est vraiment un déracinement total pour toutes ces familles. Quand ils ont vécu dans des grands logements et qu'aujourd'hui, on leur dit « Mais vous allez partir et on va vous donner un petit logement parce que vous êtes seule, madame. Oui, mais madame, elle reçoit ses petits-enfants, elle reçoit la famille qui vient de temps en temps, qui habite loin. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'elle se sépare. Ils ont pas pensé. Et même nous, hein, les associations, je le reconnais haut et fort, on n'a pas pensé, quand nous disions aux, ces personnes-là, vous allez quitter votre logement, ils ont un T5, un exemple. Aujourd'hui, on leur donne un T2 parce qu'elle est seule, en couple avec un mari, quoi. Elle ne peut pas avoir un plus grand. Elle doit se séparer de ses biens. Et ça, ça fait très très mal à des personnes. Ils ne savaient même plus. Ça, c'est quelque chose, je m'en excuse, on n'a pas pensé du tout. Quand on dit à quelqu'un, écoute, des trucs qui m'ont rendue heureuse dernièrement, j'ai relogé une personne qu'on a réussi difficilement, parce que c'est pas facile le relogement. Je ne savais pas, moi, vu que cette personne, on va détruire ton bâtiment, de ramener et ramène et encore ramène des paperasses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va passer en commission. Ah, vous êtes à la troisième position. On n'a pas compris le système du relogement avec le PRU. Je pense que ça devrait se passer autrement, parce que les personnes attendent des réponses, ils ont espoir qu'ils ont vu un ils ne le visitent même pas, qu'ils vont avoir ce logement-là dans quel quartier, bon, ils vont accepter, mais en fin de compte, ils ne le visitent pas, ils doivent donner leurs documents, si c'est refusé en commission, eh bien, ils doivent encore refournir le logement, et ça aussi, c'est pénible pour les locataires, pour les habitants. Nous avons aussi des personnes qui, eux, demandent à partir parce qu'ils se retrouvent dans des grands logements et qu'ils se retrouvent seuls, que eux, ils n'arrivent plus à payer leur loyer parce que la composition familiale n'est plus, et qu'avec sa petite retraite, elle va payer son loyer, mais après, elle n'a plus rien à manger. Ces personnes-là, je ne comprends pas, vu que nous avons besoin sur le relogement des grands logements, mais on ne prend pas ce logement-là. Pourquoi ? On n'a pas compris pourquoi non plus. C'est vraiment du travail. Et moi, je pensais qu'on allait un peu souffler avec tout ça, que ça allait bien se passer. On a fait une charte. Bon, on n'a pas trop voulu de notre charte parce que justement, toutes ces problématiques, on les avait vues en amont. Aujourd'hui, ils n'ont pas voulu. On retrouve tous ces problèmes, tous ces soucis. On essaye d'aider du peu qu'on peut toutes ces personnes. Tous les vendredis, nous faisons des réunions. On se retrouve auprès d'un bon petit repas entre nous, les habitants. Et tous, on discute de ce qui se passe, des travaux, des rénovations, du quotidien, du lendemain, qui doivent quitter le quartier, où ils vont y aller. Ils ne retrouveront plus non plus cette solidarité que nous avons actuellement, parce qu'ils ont cherché qu'on soit ghettoisés dans ce quartier. Parce que nous, les personnes qui y vivent, ils ne veulent plus partir, ils se sentent à l'aise, ils sont bien. Ils vont aller où? Ils n'ont pas ce qu'ils ont actuellement ailleurs. Ils ne retrouveront pas cette même chaleur humaine. C'est ça qui est très difficile. Et moi, j'ai vu des personnes stressées rentrer à l'hôpital, les pompiers venir les chercher parce qu'ils se posaient beaucoup de questions. Il faut les rassurer, il n'y a pas ce suivi-là. Et ça, c'était notre travail. Charles, je pense que tu vas venir témoigner en plus de ce que je viens de dire.
Avant que tu complètes, tu as parlé plusieurs fois de PRU. Et je veux bien que tu m'expliques ce que c'est. Moi, je connais pas ce mot.
Alors, PRU, on est dans un quartier prioritaire, c'est-à-dire par rapport, comme il a dit Charles, c'est... comment ça s'appelle ?
Programme de rénovation
urbaine. Voilà, programme de rénovation urbaine, justement, c'est Paris. Ça, je vous ai dit, on est monté à Paris pour défendre le projet avec des élus. Ils ont promis mon émerveille, mais en fin de compte, il n'y a pas ce qui a été dit à l'époque, quoi. C'est ça qu'on est déçu.
Ok.
C'est des paroles. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'était que des paroles, des paroles. On y a cru à ces paroles. On a pensé, moi j'avais dit que Herbel, ça ne passerait pas comme dans d'autres quartiers où j'ai vu que c'était vraiment délacé. Quand j'ai visité les Flamands, excusez-moi, ils venaient à peine de construire des fissures, infiltration façade. Plein de choses, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on va subir le même sort que ces pauvres gens. C'est pas possible. Effectivement, on le subit. Bon, on alerte, on essaie de travailler tous ensemble. Il y a un peu de résultats, mais pas plus. Pas plus que ça.
Mais parce qu'à Herbel, il y avait besoin d'une rénovation.
Ben écoutez, ça a été fini d'être construit en 70, hein, comme il a dit mon collègue. Et depuis qu'ils l'ont construit, il n'y a pas jamais eu de travaux, de rénovation, de façade, de toiture. On a des réseaux, tout ça. Il n'y a jamais eu d'entretien. Ça fait qu'à la longue, ça s'encrasse, ça se dégrade. On a des infiltrations, on a de la condensation. On a beaucoup de personnes qui sont tombées malades et beaucoup d'enfants qui sont devenus asthmatiques parce que justement, tous ces travaux n'étaient pas mis en avant. Ça fait qu'aujourd'hui, avec la rénovation, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça ne va pas être encore un camouflage? Ça, c'est ce qu'on se pose comme question.
Et si je reviens un peu sur là ce que tu nous expliques et sur ce que toi tu nous as dit Charlie au début, après du coup plus de 50 ans sans qu'il rénove quoi que ce soit, là il demande de l'argent pour soi-disant rénover, mais en fait ce qu'ils veulent c'est détruire.
Détruire, bien sûr, c'est ça ramène de l'argent parce que ils vont restructurer. Vous vous rendez compte qu'on déloge des familles qui sont dans des T4, comme on a dit, le marché immobilier, il est très fermé. Il n'y a plus de logements pour personne. Alors pourquoi casser des grands logements pour reloger ces personnes, pour en faire des petits appartements? Et on les met où, ces familles? C'est ça qu'il faut m'expliquer. Là, j'arrive pas à le comprendre, tout ça.
Et en plus, peut-être très concrètement, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblent un peu les logements qui démolissent?
Ben, c'est des appartements qui sont bien. Non, je sais pas, on en a vu ensemble.
Ouais, c'est ça, parce que souvent pour justifier les démolitions, on a vachement l'image des grandes tours dans lesquelles beaucoup de choses sont très dégradées.
C'est des tripodes.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est juste des tripodes. Alors, une question aussi, je m'excuse, moi je pose beaucoup de questions, je me demande des réponses. On avait un bâtiment qui s'appelle le bâtiment 37, qui se trouve à 37 rue de la Palude. À l'époque, ce bâtiment, c'était des grands logements, des T6, c'était vraiment des grandes familles qui y vivaient. Ils ont relogé ces familles, ils ont restructuré les logements, ça veut dire qu'un logement leur a fait 4 ou 5 logements. Hein. Ils ont rajouté une coursive, des escaliers, bref. Mais pourquoi aujourd'hui voulant le casser, ce bâtiment? Je sais pas.
Il faut savoir que les bâtiments là qui sont ciblés par les démolitions, juste très concrètement, c'est des bâtiments qui sont situés à moins de 5 minutes du tram.
C'est ça.
Que Herbel, c'est quand même un quartier qui est dans une pinède, que dans ces logements, il y a la vue sur les massifs des Calanques.
Ah, oui.
Bref, quand on a cette image des démolitions à tout va, en fait, on n'a pas forcément cette image-là. C'est des immeubles de 6 à 8 étages.
Non, pas
8 à 10 étages, pardon.
Non, c'est interdit. C'est des tripodes de 5 étages.
De 5 étages ?
6 étages, on va dire. Hein. Il y en a qui font quand même 6.
Et en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de casser les plus grands bâtiments de la cité. Et comme il fallait trouver des démolitions, ils ont trouvé de manière absurde les petits bâtiments qui coûtaient moins cher à démolir. Voilà. Donc on est quand même face à ça comme type d'aberration aussi.
C'est ça. Mais là, aujourd'hui, alors il y a des locataires qui se sont mobilisés en disant qu'ils ne voulaient pas partir de leur logement parce qu'ils y ont mis leur vie, ils ont fait des travaux, ils ont du vécu, ils ont encore des enfants à charge, ils y vivent, ils vont aller où? Et comme ils le disent eux-mêmes, quand il y avait des problématiques dans le logement, personne ne venait réparer. Ça fait qu'eux, ils ont fait les réparations à leurs frais. Ça veut dire que de l'extérieur, vous dire, Herbel n'est pas beau, quoi. Mais quand vous rentrez dans les logements, vous vous demandez si vous êtes vraiment sur Herbel. Parce que les gens ont mis leur cœur dans leur logement. Et aujourd'hui, ils disent non. Nous, on a fait notre possible. On a toujours parlé. On a toujours dit. Aujourd'hui, qu'on a fait nos logements, ils veulent nous déloger. Mais pour aller où? Mais après, vous avez la décohabitation, mais ça aussi, c'est encore... Ils sont disant qu'il n'y a pas de logement. Alors, c'est un cercle infini.
Les tripodes, ça, c'est quoi?
Les tripodes, c'est des petits bâtiments de 5-6 étages, sans ascenseur.
Ok.
4-5.
Ok.
Voilà, on appelle ça des tripodes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on touche. Pourtant, on avait les tours, et à l'époque, ça parlait de démolir les tours, justement. Et aujourd'hui, c'est abandonner les tours. Pourtant, il y a des problématiques. Pas d'ascenseur, pas de chauffage, beaucoup de problèmes. Mais non, on garde toujours les tours et ils veulent démolir les tripodes.
Et moi, j'ai envie de rebondir. Tout à l'heure, tu disais que vous aviez réussi à faire du relogement de personnes. C'est quoi à peu près les chiffres des gens qui sont délogés et ceux et celles qui réussissent à être relogés?
Il y a à peu près, je pense, 160 familles, non? Je pense, on n'a pas vraiment le chiffre exact, Mais parce qu'il y a aussi les décohabitations. Alors ça, on n'a pas vraiment le chiffre réel.
Ils démolissent environ, à l'heure actuelle, 180 à 200 logements quoi, dans
normalement, Airbnb. Normalement, parce que là, actuellement, ils ont toujours pas, ils sont en retard, je pense, sur leur calendrier, parce qu'ils n'arrivent pas à reloger les personnes. Déjà, le premier bâtiment qu'ils devraient démolir, on dit que c'était le 36 et le 37. Aujourd'hui, c'est toujours pas d'actualité, parce qu'il y a toujours des locataires qui y vivent. Par contre, ce que je ne comprends pas, parce que ça m'est remonté, même si on m'entend et que je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, je vais le dire, parce que c'est un fait réel, hein. Je suis une défense de locataire avant tout. C'est que ces gens-là, on va prendre l'exemple du 36. Le bâtiment 36 doit être démoli. Ok. C'est noté, c'est marqué. Il y a eu des premières tranches de travaux. Mais eux n'ont pas pu en bénéficier parce qu'ils doivent être démolis. Ce qui est injuste, parce que ces gens-là payent un loyer, comme tout le monde, ils ont droit quand même à un appartement décent. Et ça, c'est pas logique non plus, parce que ça, on me l'a posé plusieurs fois, cette question, je n'ai pas su répondre. Alors là, vous voyez, j'ai une personne qui devrait partir, qui nous a demandé une certaine somme de dédommagement, je le comprends, mais aujourd'hui, j'ai dit, écoute, tu n'auras jamais cette somme. Écoute, on va aller, on va voir de faire un geste pour te dénoncer de ce que tu as subi. Bon, on me dit que oui, mais on va voir par la suite parce que la personne ne partira pas s'il n'y a pas ça, un geste commercial.
Parce que c'est vrai que t'en parles pas mal, ce qui ressort aussi dans ce que tu dis, c'est que les gens, ils attendent super longtemps. En fait, les dates, elles sont constamment repoussées. Tu parlais de stress, etc.
Ah ben oui.
Faut imaginer que quand un quartier, il est ciblé par un projet urbain, en fait, entre le moment où il est ciblé et le moment où les gens vont vraiment devoir partir, parfois il y a 5 ans, parfois il y a 10 ans, et que les gens, du coup, vivent dans une attente insupportable, usante, de stress des démarches, d'anxiété, de pas pouvoir se projeter, en fait, avec des trucs très concrets de est-ce que je répare mon robinet s'il est cassé, si je sais pas si je vais partir l'année prochaine ou dans 2 ans, est-ce que je fais mon ménage de printemps, est-ce que j'inscris mon enfant dans le périscolaire. Bref, en fait, faut imaginer aussi que le calendrier de la vie des gens, très concrète et quotidienne, il est mis en suspens, en fait, depuis des années à Herbel, avec des dates constamment repoussées qui rendent le quotidien difficile juste parce qu'il est empli tout le temps d'incertitudes, quoi.
Et ce que je suis aussi, ce qui me met hors de moi, c'est que moi, quand même, j'ai des personnes qui sont hors relogement, qui cherchent quand même un logement, qui vivent dans un appartement insalubre, qui ont une loi d'allô, qui ont plein de trucs, quoi. Et que je vois qu'ils ont des logements, mais ils les donnent, vous savez, à qui ? À des associations. Pourtant, les associations, c'est pas que je suis contre, mais déjà, vous avez une population demandante. Mmh. Il y a des demandes qui sont faites, je vous promets, depuis plus de 10 ans. Mais ces gens-là, pourquoi on ne les relonge pas? Puisque vous avez des appartements qui n'intéressent pas le PRU, qui n'intéressent pas la mousse. Et là, j'ai appris aussi notre société d'HLM. Et ça, je suis restée, là, je suis en train de faire mon enquête, mais la personne ne m'a pas menti parce que je suis partie sur les lieux. Alors, ils ont relogé des familles. Et ils ont loué l'appartement à 3 personnes. Ça veut dire qu'ils se prennent presque 1 000 euros de loyer. Pourquoi ne pas avoir laissé la famille, puisque vous ne cassez pas encore? Bon, ben on va me dire, oui, mais il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui ont... Oui, d'accord. Mais ces familles-là, elles étaient bien où elles étaient? Pourquoi vous les avoir délogées? Il y a cette question aussi qu'il faudrait se pencher.
Et du coup, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que la lutte que vous portez pour le relogement et la lutte que vous portez pour les conditions de logement dignes, c'est des luttes que vous menez en même temps et qui sont liées, en fait, l'une à l'autre.
Oui.
C'est...
Une lutte, oui. C'est même pas une lutte. Maintenant, c'est devenu un forcing, quoi. Parce que quand vous avez des locataires qu'on doit reloger, qui vous disent « Moi, je voudrais bien, je serais intéressé d'habiter tel endroit ou tel endroit, puisque c'est vous qui êtes venu leur taper à la porte, c'est pas eux qui sont venus vous taper à la porte. » Et qui vous disent « Moi, je serais intéressé dans tel secteur ou tel secteur. » Et que vous les amenez dans un quartier où ils n'ont rien à foutre, parce que c'est tout isolé, c'est des nouveaux, d'accord, ok, que ça sort sur terre, c'est du nouveau, tout ça. Mais ça n'intéresse pas la population. Ça aussi, les vœux ne sont pas mis en évidence. Je ne dis pas tout le monde. Mais pourquoi il y a des refus par rapport à tout ça? Ils savent très bien comment jouer. Parce que pour moi, c'est un jeu qu'ils me font. Parce que moi, quand je vais, j'entends une version, et quand moi je suis pas, il y a une autre version. Et moi, j'ai dit, mais ça y est, j'ai vu que t'en proposais. Mais tu dis, mais non, ils m'ont pas proposé ce logement-là. C'est pour ça qu'on se retrouve sur Marseille avec des personnes qui se retrouvent toujours pas relogées, et que la démolition, et si ça tarde trop sur leur calendrier, là, la rue, Paris ne va pas accepter. Et ça, ça leur fait peur, parce que c'est des milliers d'argent perdus.
Un mini truc, c'est aussi que c'est lié à la question du relogement et des conditions de logement, parce qu'en fait, la meilleure stratégie des bailleurs sociaux pour faire partir les gens, c'est de laisser le quotidien se dégrader, d'arrêter de réparer les logements, de laisser pourrir, très concrètement.
Ben oui.
Et je pense qu'il y a une force très forte du collectif Herbel, c'est notamment ton asso, parce qu'en fait, vous n'avez jamais lâché la bataille pour les droits du quotidien, les luttes pour éviter les arnaques sur les charges à la fin de chaque année, pour réparer les VMC, pour entretenir les nets. Bref, le quotidien, vous ne l'avez jamais lâché.
Non.
Et c'est ce qui fait qu'il y a un rapport de force fort, et qu'il y a des locataires qui se sont battus pour éviter la démolition, qu'il y a eu des victoires, etc. C'est grâce à vos luttes du quotidien sur les questions de logement, en fait.
Ben oui, il faut bien les comprendre, ces personnes, ils ont tout à fait raison. Ben, moi, je veux dire aujourd'hui, on travaille avec les locataires et on travaille aussi avec les bailleurs. C'est moitié-moitié, quoi. On va pas contre l'un, on ne va pas contre l'un ou l'autre. On va dans le juste, on fait un juste milieu entre nous. Mais souvent, après, quand je vois un peu les résultats, je suis quand même déçue. Aujourd'hui, je suis vraiment déçue de ce qui se passe, surtout quand les personnes, elles sont abandonnées. Parce que ça ferait vraiment... Regardez, moi j'entends aussi ce relogement. Ça a fait... S'ils auraient suivi notre charte qu'on avait fait, elle était belle, notre charte, elle était juste, et elle était applicable pour tout le monde, même s'ils n'en ont pas voulu. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes de personnes qui vous disent « ça fait un an et demi que je suis partie, ils m'ont pas toujours pas rendu la caution, ils me comptent encore le loyer, ils me font encore ci, ils me font encore ça. » Voilà, on n'arrive pas à faire le deuil, on est toujours là, on est toujours en train de se battre pour un petit truc qui aurait dû être réglé depuis X temps. Voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pas que sur Herbel, hein.
Du coup, il y a une vraie problème de temporalité. Enfin, toi, Charlie, t'en as parlé tout à l'heure au début. Là, Jamila, tu viens de remettre l'accent sur le fait que, en fait, ça continue. Elles sont toujours sur des micro-détails qui vont revenir sur des choses qui doivent être réglées. Et Charlie, t'as dit, le manque d'entretien fait que des gens pètent des câbles et, en fait, finissent. Est-ce qu'il y a des gens qui finissent par partir avant qu'on les mette dehors ou pas?
Bah, c'est partagé. Il y en a qui sont partis, oui, mais pas que pour ça. Je vous ai dit, les gens font leurs travaux dans leur logement. Je vous ai dit, quand vous venez à Herbel, vous voyez le dehors, vous rentrez chez ces personnes, vous dites, mais je suis où? Évidemment que c'est magnifique. Parce qu'ils ont mis leur cœur, ils mettent leur argent, ce qu'ils peuvent, pour rénover leur appartement qui n'a pas pu être fait auparavant par les bailleurs. Et là, la question.
Ouais, il y en a beaucoup. En fait, comme tu as quand même un droit au relogement, partir avant, ça serait perdre tout droit au logement social. Enfin, tu vois, c'est très, très risqué. Par contre, ce qu'il y a très souvent, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cèdent et qui disent non une fois, deux fois, trois fois à des logements qui leur plaisent pas, qui sont, comme tu dis, trop petits avec pas assez de pièces, là où ils veulent pas aller, mais qu'en fait, la quatrième fois, finissent par céder parce qu'en fait, ils peuvent plus supporter de pas savoir où ils seront l'année prochaine, ils peuvent plus supporter les dégradations. Donc, ce qui se passe le plus, c'est ça, en fait. C'est juste des habitants qui finissent par céder et qui revoient à la baisse fois 10 leurs ambitions, enfin, genre leurs souhaits, leurs aspirations de vie, quoi, pour pouvoir partir plus rapidement, quoi.
Oui, c'est ça.
Et le... J'ai un besoin de précision. Les relogements, ils concernent uniquement les familles des bâtiments 36-37 qui vont être détruits, ou là on parle de toute la cité d'Herbel?
On parle de tous les bâtiments qui doivent être restructurés ou démolis.
Ok.
Il y en a pas mal, hein. Il y a plus de 200 ménages, il me semble.
Ok.
160 à 200, hein.
Restructurer, c'est quand on change genre le nombre de pièces, la disposition,
voilà,
de l'appartement et tout.
Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait partir des personnes de T4 pour en faire des T2. Pour des nouveaux locataires, parce que quand les gens demandent, mais nous, est-ce que ben moi je pars pas, j'attends que le T2 soit construit, mais non, ils peuvent pas, ça leur est pas attribué à eux, ils cherchent une autre population.
Ça, c'est la grande peur des bailleurs sociaux, qu'il y ait trop de personnes seules ou à deux ou à trois dans un grand appartement.
C'est
en fait, ils ont vraiment un truc de presque d'encadrement très fort des pratiques populaires et de surtout éviter le profitage. Et leur lutte numéro une, c'est ce qu'ils appellent la sous-occupation. Donc, ce qui peut être très discutable parce qu'en fait, il y a des personnes âgées dont tu parlais, en fait,
oui,
qui font venir régulièrement leurs petits-enfants. Enfin, en fait, avoir une chambre en plus, Dans d'autres endroits, on fait jamais chier des gens quand ils ont une chambre ou deux en plus pour accueillir leur famille, etc. Dans les quartiers, c'est le fléau numéro un, la sous-occupation, et c'est grand-mère qui habite seule dans un T3, etc.
Alors, écoute, c'est partagé ça aussi, parce que moi, je connais une famille, elle a quatre enfants, c'est un couple, ils ont une T3. Tous les jours, elle demande à être relogée, avant qu'il y a... Qu'est-ce qu'on lui répondait ? Mais attends, il va voir la compagne, il va voir la mousse, ils vont venir te voir... Ils vont trouver un logement. Mais le logement qu'ils trouvent, c'est en dehors de Marseille. Elle va faire quoi en dehors de Marseille, la dame? Je me pose la question, qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a pas de proposition pour elle. Et pourtant, elle n'a que quatre enfants. Et elle est sur un T3 avec un mari. Alors, ça aussi, ils sont au courant. Mais le travail, il est mal... Je sais pas, moi. Il est mal géré par les personnes qui sont sur place, quoi. Parce qu'après, on voit, c'est pas toujours les mêmes personnes, hein.
Et le cette histoire du relogement, ça fait combien de temps que ça arrivait que des familles ont commencé à le réclamer, que vous avez commencé à le porter dans votre assaut comme
depuis que nous avons signé avec l'ANRU, ça va faire 3-4 ans.
Ok.
Parce que déjà ils avaient fait une prévisite chez les locataires, ils étaient venus les voir. La composition, les documents, et c'est quoi qu'il faut, et tout ça. Bon, j'étais là, hein. Les locataires donnés, ils étaient contents, ils pensaient que ça allait marcher, mais en fin de compte, non, hein. Il a fallu une famille, elle a eu des problèmes, ils l'ont fait vite partir, et on a supplié qu'elle est partie en urgence, parce qu'elle devait être relogée. Les autres, ils sont encore là, d'autres, c'est en attente, quoi. Il n'y a pas de proposition, on dit qu'il n'y a pas de proposition.
Mais ça fait 15 ans que ça traîne. Ça fait 15 ans qu'ils ont commencé à dire qu'il y aurait un projet, etc. 15... qu'ils ont arrêté d'entretenir le quartier,
alors,
etc.
Alors, ça, 15 ans, je t'explique, parce que quand j'étais à l'ANRU, j'ai posé la question. Et j'ai posé la question en disant pourquoi, à chaque fois, le programme, il était à chaque fois, il n'était pas le même. Tu vois, il y avait toujours des modifications. C'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a répondu, les maires ne changent toutes les 5 ans. Vous savez que ce n'est pas le même programme. C'est pour ça qu'on avait des difficultés à venir à bout de ce projet-là. C'est par rapport aux maires qui sortaient, tu vois, que ça ne s'était pas renouvelé. Tout simplement. Voilà, ça, j'ai eu la réponse.
Et tu as parlé de la charte. Est-ce que tu as envie de nous donner 2-3 mots sur c'est quoi cette charte et c'est quoi un peu les principes fondateurs? Et puis sinon, c'est quoi les autres outils que vous avez mis en place pour lutter à Herbel?
Justement, pour éviter tout ça, nous, on avait mis cette charte parce que il y avait notre vécu, notre vue, parce qu'on a quand même assisté au PRU des Flamands, Busserine Piquant. On a vu la Casté, le plan d'Aou. Et ce qu'on voyait, on ne voulait pas que ça vienne aussi dans notre quartier, quoi, que ça s'arrête un peu, qu'on travaille tous ensemble et dans de bonnes conditions. Et d'arrêter de voir des familles se déchirer ou en souffrir ou partir de chagrin, parce qu'il y en a qui sont partis de chagrin aussi. Moi, j'ai des personnes, ils ont été ramenés par les pompiers parce qu'ils ne voulaient pas partir. Là, j'ai une dame, je pleure pour qu'on lui trouve un logement. La dame, ils ne veulent pas lui donner, ils ne veulent pas la reloger. Oui, donnez-nous le nom. Ça fait plus de 2 ans que je donne le nom. Et elle est toujours dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que cette dame, elle est isolée chez elle, elle ne peut plus sortir, elle ne mange plus, il n'y a plus d'ascenseur, elle ne peut pas se déplacer, elle vit dans un endroit quand même un peu isolé. Mais les bailleurs ne font rien. On lui dit, mais donnez-moi son numéro, je vous le donne. Faites-lui une invitation à cette pauvre dame, laissez-la mourir tranquille, un peu avec du monde. Non, on la laisse dans son poste, dans son coin. Elle est en 4e étage. Dans le 2e, si je ne me trompe pas, de l'arrondissement de Marseille, elle a sa fille qui habite dans le 11e, dont elle avait des logements pas loin. Elle peut prendre, elle va bientôt mourir. Donnez-lui. Là, la dame, tous les jours, elle pleure. Pas d'ascenseur, elle ne sort plus. Elle ne sort plus. Même les courses, il faut lui amener les courses. Et ça, ce n'est pas possible. Et cette dame, c'est vrai qu'avant, elle habitait à Herbel, elle était partie parce qu'elle en avait marre. Mais en fin de compte, elle a fait une erreur. Il y a une autre personne aussi, handicapée. Il a voulu partir se rapprocher de l'hôpital européen parce qu'il avait beaucoup de soins. Chez nous, il habitait en rez-de-chaussée. Il était bien. C'est vrai que l'appartement n'était pas trop adapté par rapport à son handicap, mais ça va, il y vivait. Et on lui a trouvé un appartement 7e étage. Ascenseur toujours en panne. Le monsieur dort des fois dehors ou à l'hôtel parce que les pompiers ne peuvent plus le soulever pour le monter chez lui. lui aussi demande une mutation. Mais on s'en fout. Il y a tout ça qui vient en compte. C'est tout ça que nous, on essaye de défendre dans cette charte. Voilà, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend et qu'on voit. Parce que entendre, des fois, vous savez, on m'a dit que, oui, il faut voir. Mais c'est ça qui est triste.
Et pour essayer quand même de gagner quelques trucs, parce qu'on pourra dire quand même qu'on a gagné quelques trucs avec cette charte.
Oui.
On a eu un peu pour stratégie, on parlait du temps, de se dire dans la rénovation urbaine, le temps c'est de l'argent. Et en fait, eux ils ont un peu le temps de leur côté en laissant pourrir, en mettant les gens dans la tente et tout. Mais nous on peut aussi un peu se réapproprier cette arme, parce qu'eux en fait ils sont méga stressés du calendrier de leur projet. C'est des projets genre avec plein de partenaires. Et donc, si genre par exemple on fait retarder de 6 mois tel contrat, en fait eux ils sont une merde de ouf parce qu'ils ont pris des prestataires pour le relogement, des prestataires pour les travaux, des prestataires pour la concertation qui payent, et donc ils sont en flip de ouf qu'il y a un retard. Et donc nous notre stratégie ça a quand même été ça quoi, de se dire on va leur couper l'herbe sous le pied, donc on va rédiger nous-mêmes une charte avec les conditions qu'ils doivent respecter pour les relogements, et surtout on va leur faire comprendre, et on avait quand même fait une grosse mobilisation avec le locataire de grève du relogement, en gros, vraiment même stratégie qu'à l'usine, quoi. On fait la grève, on bloque la machine capitaliste. Bah là, c'est en mode, on bloque la machine de la rénovation urbaine. Et il y avait un truc de, on n'ouvrira pas notre porte et on vous laissera pas commencer le relogement tant que vous aurez pas signé cette charte. Et du coup, c'est quand même ça qui a permis d'obtenir des victoires, c'est qu'en fait, ils ont vu le calendrier passer, ils ont vu les habitants bloqués, ils ont commencé à voir les retards potentiels de travaux, de contrats, etc. Et donc, ils ont lâché quand même sur des trucs importants. On a quand même obtenu le maintien du reste à charge au mètre carré. Terme très chiant mais très important dans le quotidien des locataires. Le reste à charge, c'est en gros ce qui te reste à payer. T'as ton loyer moins les APL que tu touches concrètement. Et c'est ça ton reste à charge. On a obtenu que le reste à charge reste constant avec le relogement pour que les gens, déjà ils sont contraints de partir, ils n'ont rien demandé, on les vire de chez eux. Au moins que leur loyer, que ce qu'ils ont à payer à la fin du mois ne soit pas plus élevé dans leur futur appartement. Donc on a obtenu un truc important qui est que la métropole s'engage à compenser la hausse de frais que ça représente pour les locataires de devoir être logés.
Déjà.
Et on a gagné aussi d'autres trucs.
Oui, on a gagné plein de choses, c'est vrai. On a fait aussi une charte avec, pas une charte, on a signé avec les bailleurs, comment on appelle ça ? Oh là là, le mot m'échappe. Bon, bref, on a signé un papier par rapport aux travaux.
Pour le suivi des travaux.
Pour le suivi des travaux, ils ont signé. Mais en fin de compte, ce qu'ils font actuellement, c'est tout faux. Moi, je sais que c'est des petits qui sont en bas qui font n'importe quoi, parce que les patrons d'en haut ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et là, j'ai dit quand même, il faut un peu se calmer. Parce que moi, je compte monter au créneau, parce que c'est pas possible ce qu'on est en train de subir. Les travaux annoncés, ils veulent que les locataires font. Mais non, c'est pas possible. Ce que vous dites de faire, ce n'est pas intéressant. C'est encore de casser sur ce que vous avez déjà cassé auparavant. Et qui c'est qui subit quand vous partez ? Regardez, je suis venue ce soir chez vous, j'ai eu un coup de fil en me disant, Jamila, je fais comment ? J'ai inondation à la maison. Ils ont fini les travaux, il y a inondation. Et c'est tous les jours comme ça. Et en haut, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est n'importe qui vient travailler chez nous. C'est un combat, hein.
Et vos interlocuteurs, c'est les bailleurs sociaux, c'est aussi, il y a des pouvoirs publics, enfin, c'est avec qui que, c'est auprès de qui que vous négociez
Moi, c'est avec les bailleurs.
Les bailleurs, ok.
Oui, oui, oui. On avait la métropole, on avait pris, Et c'est leur parc à eux, hein, c'est le parc à personne d'autre, hein, c'est eux qui doivent être en premier informés de ce qui se passe.
Après, on est quand même remonté jusqu'au Faro. On était en présence de la préf, de la métropole, du conseil départemental. Il y avait quand même tous les partenaires du projet. Et ça, quand même, faut peut-être le dire quand même. Herbel, c'est, je pense, un des seuls quartiers de France dans lequel les assos de locataires, dont on assaut Jamila, ont été au comité de pilotage des projets. En fait, à force qu'on fasse ralentir les plans, etc., ils ont cédé, ils nous ont donné une place. On a pu siéger au comité de pilotage. Donc, en gros, là où sont prises les grosses décisions. Ça, c'est quand même assez ouf d'avoir obtenu ça. Et c'est ce qui nous a permis quand même d'obtenir, de faire baisser le nombre de démolitions de plus de 60, donc de sauver plus de 60 logements. C'est quand même peut-être la victoire historique la plus forte qu'a tenue le collectif sur la démolition.
N'oublie pas, on a quand même l'étiquette de conseil citoyen. C'est pour ça qu'on a pu être à ce pilotage. ça nous a fait une rentrée aussi.
Ben, en tout cas, c'est hyper impressionnant et encourageant de voir que en se mettant ensemble, ce que vous racontez là de la grève, des relogements, que ça a marché et que vous obtenez des victoires, c'est trop la classe. On a notre cher Kenzo qui est de retour sur le plateau. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Herbel?
Allez, pourquoi pas.
Ouais.
En vrai, moi, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi, parce que après, je vois beaucoup que les associations et les défenses de locataires, ils se battent justement pour les locataires, qu'ils font tout pour que les choses y reviennent à la norme. Je vois beaucoup aussi le fait que c'est comme elle a dit ma grand-mère, il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup d'inondations. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, surtout de la moisissure, ce qui peut provoquer de l'asthme, comme je crois qu'elle a précisé d'ailleurs. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce que en vrai, ça peut vraiment toucher tout le monde dans la cité. Par exemple, les champignons aussi par rapport à l'eau. Il y a beaucoup de champignons, mais moi j'en ai été victime. Hein. Et franchement, je trouve que c'est un peu du cache-misère quand même. Parce qu'en fait, ils refont des travaux dans les même dans les appartements même, pour qu'au final, il y a encore des problèmes. Donc je trouve que c'est juste pour cacher la misère et puis balayer la saleté sous le tapis. Et c'est comme moi, quand je range ma chambre, parfois je cache tout dans l'armoire, puis j'ai tout et j'arrête, quoi, voilà.
Bien vu la technique de cacher sous le lit, on l'a tous fait. avant de clore cette émission, parce que je vois que l'heure tourne, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, l'une de vous trois, ou est-ce que vous pensez avoir tout dit? Ouais.
Alors moi, aujourd'hui, je vais revenir à ce qu'il disait Charlie. Effectivement, si on n'était pas tous ensemble, parce qu'on dit que l'union fait la force, si on n'était pas tous ensemble, main dans la main dans ce combat, on n'aurait jamais gagné. Et de là, il fait bon vivre dans notre cité.
La classe, belle conclusion. Eh ben, merci beaucoup à vous trois pour cette émission, c'était super intéressant. Et on se fait une bonne pause musicale. Restez à l'écoute de Radio Galère, 88.4 FM.
Merci. On revient juste après la pause.
Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 minutes de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit un plus, jamais je ne l'ai revu. Tant pis le diable pour sortir de la galère, t'as gagné ferme, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger, en deux temps trois mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend tour de bras, on fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI, ici, le rêve des jeunes c'est la Golf GTI, survêt Takini, tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi, je suis plus malin, lui qui crève à la fin, justifie les moyens, 4, 5 ou malsains, on tient jusqu'à demain, après on verra bien, on marche dans l'ombre du malin, du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin, y'en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume, pas tomber les yeux, l'envieux toujours entre une route, pour y entrer, deux pour s'en sortir, trois quarts cuir, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, être si jeune, en avoir plein le répertoire, des guerriers de la carte qu'on efface comme un tableau du chaos, c'est le noir, croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs, on y passe notre vie, on y finit, avant de connaître l'enfer, sur terre on construit son paradis, fiction, des illusions trop fortes, sort le chichon, la réalité, tape trop dur, besoin d'évasion, évasion, effort d'imagination, ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit, on veut s'échapper de la prison. Une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs. Certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les envoient. Pour une poignée de bifton, guerre fraternelle. Les armes
pousse comme la mauvaise herbe. L'image du gangster se propage comme la gangrène. T'aimes ces graines, 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 graines de délinquants. Qu'espériez-vous tout jeune en leur apprend que rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand, impossible à arrêter, arrêter. Poisseux au départ, chanceux à la sortie. On prend 3 mois le bruit court, la réputation grandit. Les barreaux font plus peur, c'est la routine. Vulgaire épine, finesse, esquisse à l'encre de Chine. Figurine qui parfois s'anime, s'anime. Animé d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait. On jette le dé, faut flamber, perdre et gagner. Rentrer avec quelques papiers, en plus ça aidera. Personne demandera d'où ils sont tombés. Tombés, ou pas pour tout, pour rien. On prend le risque, pas grave cousin. De toute façon, dans les deux cas, on s'en sort bien. Vivre comme un chien ou un prince, y'a pas photo. On fait un choix, fait griller le gigot. Briller les joyaux, joyaux. Un rêve, plein les poches, mais la cible est trop loin. La flèche qui coche, le diable rajoute une encoche. Trop moche, les mecs cochent leur propre case. Décoche pour du cash, j'entends les cloches. À coups de pioche, creuser un trou, c'est trop fastoche. Fastoche, facile le blouson du bourgeois docile. Des mémés la hantise et porcelaine. Dans le pare-brise, chaque rasoir. Sur le sac à main, par ici les talbins. Ça c'est toute la journée, lendemain après lendemain. Lendemain, c'est pas le problème. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps. Ou on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé. Au fur et à mesure, on avance, en surveillant nos fesses pour parler au futur, futur. Le futur changera pas grand chose, les générations prochaines seront pires que nous, leur vie sera plus morose. Notre avenir c'est la minute d'après. Le but anticipé, prévenir avant de se faire clouer, clouer, clouer sur un banc, rien d'autre à faire. Voix de la vieille, on siffle les gazières qui n'ont pas de frères. Les murs nous tiennent comme du papier, tu mouches, on est là jamais. On s'en sortira, Satan nous tient avec sa fourche, fourche enfourchée. Les risques, seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes contre leur laser. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent le combat suicidaire. Sidère, sidéré, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté. De l'éternité d'un pas, fermé, décidé, préférant rôder. En bas, en haut, on va s'emmerder. Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer, fumer. Encore une bouffée, le voile est tombé. La tête sur l'oreiller, la merde d'un instant estompée. Par la fenêtre, un coup fait son entrée. Un homme se fait braquer, un enfant se fait serrer. Pour une quartier menotté, menotté. Pieds et poings liés par la fatalité. Prisonnier du donjon, le destin est le geôlier. Le turf, la reine. On a grandi avec les jeux, gladiateur courageux. Mais la vie est coriace, on lutte comme on peut.
Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés. Friction, excitation, patrouille civile, trouille inutile, légende et mythe débile. Hashishokido, poète armé de stylo, réserve de créativité, encart, silo, safilo, bloc 20, facteur Anakin dans les mains. Oubliant, tirant sur un gros joint. Princesse d'Afrique, fille mère plastique, plein de colle, raclo à la masse lunatique. Économie parallèle, l'équipe dure comme rock. Petit don qui contrôle grave leur spot. On pète la veuve Clico, parqué comme à Mexico. Horizon cimenté, pickpocket, toxico. Personne honnête, ignoré, super flic Zorro. Politicien et journaliste en visite aux zoos. Musulman respectueux, père de famille humble. Basse qui blaste ma musique de la jungle. Entrée dévastée, carcasse de tir éclaté, nuée de gosses qui viennent gratter. Lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume. Partie de foot improvisée sur le bitume. Golf VR6, pneus qui crissent. Silence brisé par les sirènes de la police. Polo façonnable, survêtement minable. Mère au trait de caractère admirable. Chichon bidon, histoire de prison. Stupide division, amas de 10 ans. Au cliché d'Orient, cuisine au piment. Joli nom d'arbre pour des bâtiments dans ma forêt de ciment. Désert du midi, soleil écrasant, vie la nuit. Pendant le mois de Ramadan, pas de distraction. Secret et un peu d'action. Je te dédie de contrées, Paris d'argent, méchant d'attraction. Rien interrompu, arrestation impromptue. Mère d'arrondissement corrompu. Marcher sur les seringues âgées. Rêver de voyager, autoradio en affaire. L'eau de chaîne arrachée. Bougre sans retour, psychopathe sans pitié. Meilleur lien d'amitié qu'un type puisse trouver. Génie du sport faisant leur classe sur les terrains vagues. Nouvelle blague, terrible technique de drague. Individualité qui craque parce que stressé. Personne ne bouge, personne ne sera blessé. Vapeur d'éther, d'eau écarlate d'alcool. Fourgon de la Brinks maté comme le pactole. C'est pas drôle, le chien mort enfermé dans la cage. Bave de rage, les barreaux grimpent au deuxième étage. Il est du hachis, c'est sage. Si tu veux sortir la femme, si tu plonges la ferme, y'a pas de drame. Mais l'école est pas loin, les ennuis non plus. Ça commence par des tapes au cul, ça finit par des gardes à vue. Regarde la rue, ce qui change, y'a que les saisons. Tu bats du béton, crache du béton, chie du béton. Te bats pour du laiton, mais est-ce que ça rapporte? Regrette pas les bistons qu'on abat, frappe à la porte. Trois couleurs sur les affiches, nous traite comme des bordilles. C'est pas manioqué, mais les cigarettes se torpillent. Coupable, innocent, ça parle cash de pourcent. Œil pour œil, bouche pour dent, c'est stressant. Très tôt, c'est déjà la famille dehors, la bande à cadère. Va niquer ta mère, la merde au cul, il parle déjà de travers. Pas facile de parler d'amour, travail à l'usine. Les élus, ressassent rénovation, ça rassure. Mais c'est toujours la même merde derrière, la dernière couche de peinture. Feu les rêves, gis enterré dans la cour. À 12 ans conduire, mourir, finir comme Tupac Shakur. Mater des photos, majeur au jour du poteau. Pas mal d'amis se sont déjà tués en moto. Une fois tu gagnes, mille fois tu perds, le futur c'est un auto. Pour ce je dédie mes textes en qualité d'ex-voto, mec. Ici t'es jugé à la réputation fortement que toi. Et tous les jours les bougres pissent sur ta porte. C'est le tarif minimum. Et gaffe, ce qui pèse transforme le secteur en oppidum gelé. L'ambiance s'électrise, y'a plein de places assises. Béton fille, je fais office de froide banquise. Les gosses veulent sortir, les noms tombent comme des masses. Les artistes de mon cul pompent les subventions des SU. Tant d'énergie perdue pour des préjugés indus. Les décideurs financiers plein de merde dans la vue. En attendant les espoirs, foire capote certains rap. Les pierres partent, les caisses volent et dérapent. C'est le portail au lycée, dans les couloirs on ouvre les instincteurs. Le quartier devient le terrain de chasse des inspecteurs. Le dos à un œil, car les os sont truffés les...
Et on est de retour sur Radio Galère 88.4 sur l'émission Alors la zone consacrée au délogement.
Et oui, et on va continuer ce cycle d'émissions sur le délogement avec une deuxième émission avec les mêmes invités, Kenzo qui n'a pas de micro mais qui est à côté de moi, Charlie et Jamila. Dans cette deuxième émission du cycle sur les délogements, on parlera des délogements à l'échelle des quartiers entiers, qui touche à la fois des propriétaires, des locataires, des commerces et des personnes qui squattent. Pour résumer, tous ceux et celles qui habitent le quartier. Ces délogements sont également justifiés par le motif de la rénovation urbaine. Et pour reprendre leurs termes, on parle ici de grands projets de modernisation, type Smart City, une physionomie urbaine de quartier capitaliste qui étouffe l'identité et la vie de celui-ci. Il s'agit de transformer ces zones populaires en soi-disant éco-quartiers, branchés, connectés. L'espace est complètement repensé, on y construit des immeubles, on modifie les routes, on rajoute des transports en commun, des parcs, de nouveaux commerces ou sièges d'entreprises. Un programme super alléchant, mais qui cache une réalité cynique. La population qui vivait là pendant de longues décennies n'est plus la bienvenue et devra quitter le quartier pour aller vivre dans d'autres zones délaissées de la ville. Pour notre émission, donc, on va parler d'Euromed, de la lutte dans le quartier des Crottes et de ses enseignements. On s'en servira pour conclure notre émission sur ce qui arrive prochainement dans le quartier de la Belle de Mai, d'où nous enregistrons cette émission.
Et du coup, pour commencer, on va parler de la nébuleuse Euromed. Qu'est-ce que c'est Euromed ? Nous, on a fait nos petites recherches. En 1995, c'est les collectivités et l'État qui s'associent pour lancer l'opération d'intérêt national euroméditerranéen, ainsi qu'un établissement public d'aménagement pour la piloter. Donc ça, c'est Euromed 1. Donc il y a un premier périmètre de 310 hectares qui est assigné à l'opération, qui inclut la façade littorale, le quartier de la Joliette, la rue de la République, on la connaît, la porte d'Aix et les quartiers de la Belle de Mai. En 2007, ce périmètre initial est étendu avec 170 hectares supplémentaires. Donc ça inclut les quartiers situés au nord du premier périmètre. Et là, on arrive dans Euromed 2.
Alors moi je ne savais pas, j'avais déjà entendu ce mot, mais je ne savais pas ce que c'était que Euromed. Et donc j'ai tapé ça sur internet et puis je suis tombé sur une brochure de la métropole qui m'a expliqué un petit peu ce que c'était Euromed. Et très rapidement, je vais vous lire un petit peu les définitions qu'ils proposent et puis je vais vous laisser réagir. Donc Euromed, c'est un établissement public d'aménagement, EPA. C'est-à-dire que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Qu'est-ce que ça veut dire, rapidement?
Un EPA, donc un établissement qui n'a pas d'argent. En gros, l'histoire de Euromed, c'est un peu ça. C'est un établissement public, c'est l'État qui n'a pas les moyens de ses ambitions, et donc c'est un établissement public qui, en gros, va vendre toute une partie de la ville à des promoteurs privés qui vont être les vrais acteurs, en fait, de la construction de la ville de demain, du nouveau Marseille, comme ils l'appellent. Donc Eiffage, Bouygues, etc. En gros, des promoteurs immobiliers à qui Euromed va passer des gigantesques parcelles de ville sur lesquels ils feront des trucs comme Smart Sale, les fabriques, tout un ensemble de projets mobiles. Donc, en effet, comme tu l'as dit, de la ville intelligente, créative, etc. La ville, surtout, des caméras de surveillance. Et l'établissement public, en fait, la particularité par rapport, par exemple, à l'ANRU ou dont on parlait tout à l'heure sur la cité Herbel, c'est qu'en fait, c'est pas lui qui va directement construire les aménagements. Il va juste revendre des lopins de terre à des aménageurs. Et lui, il a une fonction qu'on pourrait dire de passe-plat, de chauffe-plat. Autrement dit, il va s'assurer que le foncier, sa mission vraiment, c'est quoi? C'est en fait de récupérer du foncier, ce qu'ils appellent libérer le foncier. Donc, du foncier, ça veut dire un endroit dans lequel des gens peuvent habiter. Donc, comme vous disiez, des locataires, des squataires, des propriétaires, en tout cas des gens qui habitent. Euromed va donc les faire partir. C'est ce qu'on appelle la libération foncière. Et ensuite, revendre ces endroits de la ville aux promoteurs, justement, qui vont la construire. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, ce projet, on n'est pas sûr qu'il soit très rentable, qu'il soit très viable économiquement. Et le seul truc que Euromed a à vendre aux promoteurs pour leur dire investis ici, investis là, etc., c'est de leur dire je vous promets du foncier pas cher. Autrement dit, je vous promets des hectares libérés de leurs habitants qui deviennent des lopins de terre, mais qui étaient avant des villes habitées, où vous pourrez faire ce que vous voulez. Et donc, le gros enjeu d'Euromed, c'est de réussir à acheter pas cher et à faire partir rapidement les personnes qui habitent ou qui vivent ou qui vendent, qui font du commerce, ces espaces de la ville.
Ok, ben on a aussi lié un truc d'une opération d'intérêt national, OIN, qui serait une opération d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. Voilà, on s'est dit l'intérêt de qui? Pourquoi l'intérêt majeur? Qu'est-ce que c'est qu'un régime particulier? Enfin, ça veut dire quoi?
En effet, ils vendent vachement leur intérêt national, voire même leur intérêt européen. Euromed, en fait, l'objectif d'Euromed, quand ça naît en 95 et encore plus dans les années 2000, c'est quoi? C'est de repositionner Marseille dans la compétition des métropoles méditerranéennes. Il y a vraiment un truc très compétitif de redorer l'image de Marseille, vendre l'image de la ville à l'extérieur, la faire rayonner. Et donc, c'est complètement assumé de la part d'Euromed. Le but, c'est aussi d'attirer une nouvelle population qui vient d'ailleurs, qui vient de Paris, qui vient d'autres métropoles, de faire venir des cadres supérieurs, de redynamiser, c'est ça ce qu'ils appellent redynamiser, c'est complètement assumé de la part d'Euromed, et il faut le comprendre dans l'histoire un peu globale marseillaise de la ville qui n'arrive pas trop à reprendre la main sur tout un ensemble de poches populaires. On peut penser à Noailles par exemple, c'est trop compliqué pour eux de gentrifier rapidement Noailles, c'est trop compliqué de gentrifier tout un ensemble de quartiers marseillais. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont choisi cette partie du littoral sur lesquelles il y avait en effet beaucoup de friches, beaucoup d'anciennes usines, mais aussi tout un ensemble de vies, mais qui sont moins organisées collectivement, qui sont quand même plus faciles à déloger, pour construire cette espèce de nouveau Marseille sur la zone littorale. Et donc c'est ça qu'ils appellent l'intérêt national.
Eh ben, en tout cas, sur leur brochure, ils se vantent de leur réussite et ils nous parlent de 50 000 emplois créés, 10 000 logements neufs, 40 000 habitants et même 5 000 logements anciens qui ont été réhabilités. Et donc, ils parlent pas de ce que tu viens de dire. Eux, ils le mettent... Enfin, moi, je l'ai pas vu directement mis en avant, en tout cas, de à qui profitent ces chiffres dont ils se vantent. Et on a une petite capsule à vous faire écouter de deux habitantes de la Porte d'Aix, donc une zone de Marseille qui est justement gérée par Euromed. Et ces deux habitantes vont nous décrire un petit peu les évolutions de leur quartier.
Bah, du coup, moi, avec mes parents, on est dans cet immeuble depuis 20 ans maintenant. J'ai grandi dans cet appartement, dans ce quartier. Depuis qu'on vit là, le quartier il a énormément changé. On voit d'énormes changements dans le quartier, sauf que le changement, il n'est pas pour les habitants qui sont présents dans le quartier, mais pour des habitants qui essayent d'attirer dans le quartier. Parce qu'il y avait énormément d'appartements qui ont été refaits à neuf, et pourtant les personnes qui étaient présentes là, dans ces appartements, elles ont été relogées autre part. On a pu voir la construction d'écoles au niveau de la Porte d'Aix. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a Polytech qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps. Là, ils sont en train de faire, au niveau du Marché Soleil, une autre école de commerce. Et oui, il y a aussi l'université qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps. Pourtant, elle n'était pas là. L'université Aix-Marseille, au niveau de la gare Saint-Charles, enfin, un peu avant. Oui, là, actuellement, il y a des travaux pour Covelten. Ils sont en train de faire visiblement peut-être des appartements qui appartiennent à qui, on ne sait pas.
Mais c'est des beaux bâtiments quand même, c'est des bâtiments énormes, ça fait genre 300 mètres de long, c'est majestueux, c'est haut de plafond. Et c'est sûr que ça sera pour des logements, mais ça ne sera pas pour nous.
Alors la zone, ça dit squat sur Radio Galère.
Alors, moi, je vais répondre à ces jeunes filles, justement. Ces appartements qui ont été rénovés rue Bon Pasteur appartiennent à des bailleurs sociaux. Parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, j'ai rentré une personne qui devait être relogée dans ces fameux logements qu'ils ont délogé les anciens locataires. Et je vous promets qu'ils sont magnifiques.
Oui, oui. Je crois que c'est Marseille Habitat. Moi, je suis passée devant.
Non, madame.
Non,
non, non, non, non, non, non.
C'était
marqué
sur les travaux.
Moi, j'ai rentré une autre société qu'on a sur Hervel.
OK.
Oui. Et c'est beaucoup de logements comme ça que j'ai vu que c'était les bailleurs sociaux qui avaient tout racheté. Une autre personne aussi, qui est aussi sur Herbel, devait être relogée rue de Rome, pareil, ça a été réhabilité par le bailleur sociaux. Vous avez aussi la rue Marengo aussi, pareil, c'est aussi le bailleur sociaux qui ont construit ces logements, qui ont repris ces anciens locaux. Le premier rue Marengo, c'était un bâtiment étudiant, mais là, ils en ont fait des appartements. Voilà. Je réponds à la jeune fille, la pauvre. Elle a bien raison de ce qu'elle dit, si les bailleurs, la Porte d'Aix à l'époque, Boulevard des Dames était très bien, très, très peuplé. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces personnes ont été relogées ailleurs pour faire venir justement ces relogements, ces nouveaux locataires. Que logiquement, c'était eux les prioritaires.
Mm-hmm.
Voilà. Exactement. À quoi on se trouve aujourd'hui.
Et ça fait des liens entre les quartiers aussi, parce que tout se propage, c'est les mêmes problématiques. Et voilà, c'est...
Excusez-moi, hein, on enlève un problème pour le remettre à côté, tout simplement.
Mm-mm. Et on voulait parler donc, dans cette émission des crottes, donc le quartier qui est vers Saint-Lingros, rue de Lyon, tout ça. Et du coup, Charlie, je me demandais, c'est qui est touché ? Et d'habitude, on parle de logement, mais le panorama, il est là, beaucoup plus large, notamment parce qu'il touche aussi des commerces, plusieurs types de logements. Est-ce que tu as envie de nous dire un peu de qui on parle ici, en fait, quand on parle des crottes et des délogements ?
Ouais, complètement. Alors déjà, c'est important de dire qu'il y a un qui, autrement dit qu'il y avait des gens, parce que le discours officiel de Remède, c'est beaucoup d'expliquer qu'ils ont fait partir personne, qu'ils revitalisent une zone morte, qu'ils aménagent que des friches. Or non, il y avait tout un ensemble d'habitants et habitantes, il y en a encore un petit peu, mais il y en avait plus avant, rue Lyon, avenue Saint-Lingros. Il y avait aussi en effet des commerces. Et quand il y avait cette espèce de slogan « revitaliser la ville morte », il y avait une réponse du collectif des crottes qui était de dire « mais en fait, juste, vous avez tué la ville à petit feu, en fait, elle n'était pas naturellement morte, elle allait très bien ». Et ça, je pense, c'est un truc super important pour contrer leur discours. Juste petit chiffre, mais genre en mode juste avant que Euromed lance ses petites phases passives d'aménagement où ils ont tué à petit feu le quartier, la croissance démographique de la rue de Lyon et à Saint-Lingros, elle était en hausse. Il y a juste à regarder les chiffres de l'époque, c'était évident, il y avait une croissance démographique. Les petits commerces notamment allaient bien, c'était très vivant comme rue. Et Euromed, ils ont petit à petit, et c'est donc pardon en termes de profil de population, c'était en effet une population très précaire, une population de beaucoup de petits propriétaires occupants-occupantes qui souvent se sont endettés pendant des décennies pour... avoir leurs biens. Certains et certaines, moi, que j'ai pu rencontrer, qui pouvaient habiter depuis 15 ou 20 ans quelque part et qui étaient encore en train de rembourser. Aussi une population de locataires très précaires, donc c'est du privé dégradé, donc c'est souvent des logements qui peuvent être parfois encore plus dégradés que dans des cités HLM. Donc il faut savoir quand même que c'était des bâtiments en effet très dégradés pour les locataires. Et une population en squat et des campements aussi aux alentours, voilà, pour qui habite. Et en termes de commerce, c'est une rue qui est très marquée, c'est l'entrée dans Marseille. Avant, il y avait les Maréchal Ferrand, historiquement, les calèches passaient par là. Il y a vraiment une histoire du passage de l'automobile qui marque l'identité aussi de ces rues de Lyon-Saint-Lingros. Il y avait donc beaucoup de gros concessionnaires et de petits magasins à l'automobile. Et surtout, il y avait aussi toute la vitalité de quartier qui va avec la présence de gros emplois, de gros foyers d'emploi ouvriers. Donc, des commerces populaires du type des coiffeurs, des restaurants ouvriers de midi, des épiceries, des boulangeries, bref, c'était une rue qui était très vivante avant que petit à petit cet aménagement la fasse dépérir.
Et ça se matérialise comment au niveau de la temporalité, par exemple, est-ce que comme ce qu'on discutait tout à l'heure dans le cas de Herbel, c'est sur des décennies, c'est beaucoup plus rapide, comment c'est ?
Mais ce qu'ils ont fait très malin, Romain, notamment pour éviter de vivre les mêmes problèmes que par le passé, pour une micro-histoire en deux secondes, Euromed 1, donc vous l'avez dit, ils ont mené une grosse réhabilitation rue de la République et ils se sont pris quand même une grosse levée de boucliers. Ils se sont fait quand même shamer médiatiquement, notamment parce qu'en fait, ils ont délogé tout d'un coup plus de 500 personnes en envoyant quasiment le même jour des courriers pour les faire partir. Et donc, ils ont quand même été vachement humiliés publiquement pour leur méthode, et heureusement d'ailleurs, et des gens se sont défendus. Et donc, ce qu'ils ont fait pour la phase 2, donc ce dont on parle, la rue Lyon et l'avenue Roger Salengro, donc dans le 15e arrondissement de Marseille, c'est qu'ils ont, et ça je me rappelle d'une salariée de Romette qui me l'a dit, qui m'avait dit, un quartier ça se prépare, ils s'y sont pris vachement à l'avance pour éviter ça. Et donc justement, pour vider petit à petit, de manière assez passive et discrète, le quartier, plutôt que de faire partir tout le monde d'un coup. Très concrètement, ça se matérialise comment en termes de temporalité? Il faut se dire que Euromed, ils ont justement cet intérêt national là reconnu, qu'on appelle aussi la déclaration d'utilité publique. Donc le moment où ils sont reconnus d'utilité publique, c'est seulement fin 2016, donc relativement tard. Mais en fait, ils ont commencé de manière beaucoup plus fouine, plus discrète, à faire des trucs un peu depuis les années 2007-2008. Concrètement, ils ont fait quoi? Un des premiers trucs très efficaces qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait partir les gros concessionnaires auto. Quatre gros concessionnaires auto de la rue. Donc ça, pour le coup, en négociant de gré à gré avec les patrons, hein, le relocalisant très bien ailleurs. Mais ça, en fait, ça a tué petit à petit tous les petits commerces de quartier. Parce qu'en fait, c'était ce qu'ils faisaient juste, comme je disais, tous les restaurants ouvriers, épiceries, coiffeurs, etc. Et donc, petit à petit, déjà, faut imaginer que la ville et ça, il y a juste à regarder, si vous voulez, les images Google Street View. Ça, c'est un outil trop bien quand on veut comprendre les transformations de la ville. Parce que je crois que les premières datent de 2008. Donc, on peut vraiment se balader dans le quartier, avec la zen et voir petit à petit, très concrètement, les échoppes qui se ferment, les rideaux qui se baissent, etc. Notamment parce qu'en fait, les propriétaires de petits commerces ont vendu d'eux-mêmes, en fait, voyant leur chiffre d'affaires baisser. Ce qui, encore une fois, pour contrer le discours très hypocrite d'Euromed, permet de leur dire qu'ils mentent quand ils disent qu'ils ont fait partir, ils ont fait partir de manière contrainte aucun petit commerce, ce qui est vrai, mais ils ont tué suffisamment l'activité économique pour que tous meurent petit à petit. Et l'autre trait un peu en termes de temporalité longue, l'autre très marquant et très visuel, c'est, je me rappelle une habitante qui disait, j'ai l'impression de vivre dans une rue fantôme, c'est qu'ils ont en fait mis en place ce qu'on appelle une politique de préemption, désolé pour le terme, mais en gros ça veut juste dire que quand quelqu'un vend Euromed, enfin via un autre partenaire, mais en gros Euromed rachète le bien et le dévitalise, donc on parlait de revitaliser la ville, là pour concrètement le terme c'est dévitaliser, concrètement ils font quoi? Un petit propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur vend, les gens partent, ils démolissent tout ce qu'il y a à l'intérieur du logement pour pas qu'il puisse être habitable par des personnes en squat, et après ils murent. Et donc pareil, si vous regardez les images, c'est assez flagrant, on voit depuis 2010-2011 petit à petit tous les portes qui se murent progressivement dans le quartier. Et toujours Euromed qui peut dire, on a fait partir personne de manière contrainte, on a juste racheté des biens qui se vendaient et on a contraint personne à partir. Et ça se passe entre 2007 et 2016, avant même qu'ils soient reconnus d'utilité publique, qu'ils mettent en place tous ces trucs un peu passifs. Un autre truc juste un peu trash en deux secondes, c'est qu'il y a aussi la maison municipale de proximité qui brûle, je crois en 2014, et ils décident de pas donner de sous en gros pour la réparer, en mode on attend le quartier demain pour la réparer. Donc c'est aussi ne pas intervenir sur tous les équipements publics du quotidien qui petit à petit donnent cette ambiance fantôme à la rue.
Oui, je voulais juste rebondir sur le préempter. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que ils rachètent, mais ils ne laissent pas le choix. Enfin, c'est si moi, par exemple, je voulais racheter, mais que Euromed dit je préempte, c'est eux qui sont prioritaires avant tout.
Ouais, tout à fait. En fait, exactement. Ils ont le droit d'être prioritaires à l'accession. Autrement dit, si une personne vend, ils se positionnent. Parce qu'en fait, quand on vend, ça passe toujours par un service de la mairie qui du coup est informé qu'il y a une vente. Euromed se positionne systématiquement en premier, donc personne d'autre ne peut acheter.
Et là, tu as parlé de la phase passive, du coup, et phase active. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu comment ça s'est mis en place après?
Ouais, complètement. Donc, la phase active, elle commence du coup fin 2016. Donc là, c'est le moment donc où Euromed a le droit de contraindre des gens à partir, de les forcer à partir légalement au nom de l'utilité publique supposée de leur projet. Et du coup, concrètement, il se passe quoi? Ils doivent faire partir les propriétaires, les locataires et les squatteurs. Et ils utilisent différentes techniques pour faire partir ces gens-là. Un truc peut-être à retenir, c'est que leur première stratégie, encore une fois, parce qu'ils ont le traumatisme de la rue de la République et de tout le quartier qui s'est élevé face à eux, c'est qu'ils décident stratégiquement de fragmenter les procédures d'expropriation. Donc concrètement, de pas les envoyer en même temps. Donc et ça, c'est un truc qui a été très très dur en termes de mobilisation collective pour le collectif des crottes. C'est qu'en fait, les trucs sont jamais arrivés en même temps. Je me rappelle, le membre du collectif, dès que je l'avais rencontré, un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est qu'on nous a accusé de crier au loup pendant des années. Parce qu'en fait, dès 2011, quand ils voient les premières transformations, ils disent, ils impriment concrètement un tract, attention, menace, expulsion, on va tous se faire déloger. Sauf qu'en fait, on était dans une espèce de phase passive, c'était pas des trucs directs comme je viens de le dire. Après arrive la déclaration d'utilité publique et là le collectif se relance Notamment parce qu'il y a des trucs de consultation bidons, mais bon, de fait, il y a quand même des espèces de consultations, donc le collectif se remonte autour de ça. Et surtout, là, ils sont en mode, bah là, le truc qu'on attendait malheureusement va enfin se passer. Genre là, ils vont vraiment exproprier tout le monde et tout. Sauf que non, il y a que 6 personnes, genre en mode dans la liste. Le jour où sort la liste, vraiment, ils tombent des nues, le collectif. Le jour où sort la liste des numéros qui vont être vidés, il y en a que 6. Parce que, du coup, moi, quand je les ai rencontrés, que j'ai enquêté sur Remède en interne, parce que stratégiquement, ils ont fait exprès d'en mettre que 6, ensuite une quinzaine, ensuite une dizaine, etc. Et de tout faire pour que tout n'arrive pas en même temps. Et ensuite, comme je disais, Remède, le principal levier qu'il a pour vendre ça, pour faire venir les promoteurs, c'est de vendre la ville pas cher. Et donc, du coup, ils mettent en place tout un ensemble de stratégies pour exproprier le moins cher possible les petits propriétaires occupants dont je disais qu'ils se sont endettés pendant des décennies souvent pour avoir leurs biens. Donc, c'est des trucs fonciers très techniques, mais très importants. Je vais pas rentrer dans la technicité, mais en gros, ce qu'ils font notamment, c'est qu'ils se débrouillent pour construire des prix de référence, donc des prix en fait qui vont devenir le prix de référence pour tous les autres gens qui se font exproprier, avec des espèces de calculs stratégiques juridiques faits avec des partenaires qui jouent sur le calendrier. Ils se démerdent notamment pour qu'il y ait un prix qui les arrange juste avant la déclaration d'utilité publique, parce que légalement ensuite ce prix fera référence. Ça, c'est des trucs qu'ils mettent en place en amont, personne le sait. Ils jouent les innocents entre 2010 et 2016 quand on leur dit qu'est-ce que vous préparez, etc. En fait, ils disent qu'ils exproprient personne pour l'instant, etc. Mais en fait, ils sont déjà en train de construire et de figer les prix du marché pour ensuite pouvoir exproprier pas cher les petits propriétaires occupants. Ce qui est extrêmement violent, du coup, aussi, ce qui est extrêmement intrusif et violent, l'expropriation pour des propriétaires, faut imaginer, et ça, c'est assez ouf, la juridiction d'expropriation, elle se passe au domicile. Souvent, on rigolait sur le fait qu'il y a le tribunal de grande instance d'Écrantes. Autrement dit, un jour, il y a un juge et une armada judiciaire avec des avocats, des huissiers, etc., qui viennent chez toi et l'audience se passe chez toi. Et ouais, c'est assez ouf. Et c'est très violent avec des scènes, par exemple, je me rappelle de 2 jours avant une audience où on avait repeint à l'arrache l'appartement d'un habitant parce qu'il était en panique, en mode ils vont juger chez moi, etc. Enfin, ça crée un truc extrêmement intrusif. Très violent, quoi. Très violent, et c'est des juges qui sont pas spécialistes. Ça peut être des juges qui bossent tout le reste du mois sur complètement d'autres affaires, pas du tout experts dans l'immobilier, dont la mission, pour aller un peu vite, est de couper la poire en deux entre ce que demande Euromed et ce que demandent les propriétaires. Et surtout qu'on a très peu de pouvoir par rapport à des juges qui sont experts dans leur domaine, etc. Les juges de l'expropriation, ils ont très peu de compétences concrètement. Et donc, du coup, faut se dire que Euromed fait bosser vraiment une armada d'experts en expropriation, en calcul foncier, etc., pour obtenir les meilleurs arrangements possibles. Ils bossent notamment avec Sistra Foncier, une boîte qui a exproprié la moitié de la France via les chemins de fer et qui a de la bouteille en la matière, notamment face aux petits propriétaires plus isolés des crottes.
Et bon, le temps, il court un peu et on avait envie de parler plein de choses, mais... Il y a des outils que vous avez pu utiliser? Est-ce qu'il y a encore aussi une histoire de charte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil de lutte à ce moment-là qui pourrait être réemployable
Alors,
plus tard?
Alors, au collectif des crottes, on n'a finalement pas réussi à obtenir une charte. L'outil qui a été le plus efficace, ça a été la médiatisation. En gros, le gros coup du collectif des crottes, le jackpot du collectif des crottes, c'est d'avoir réussi à faire venir, je sais plus qui c'est, mais c'était soit Cache Investigation, enfin en gros un gros média télévisuel qui a filmé en caméra cachée une expropriation, donc la visite en gros d'une agente de Remède, enfin d'une prestataire de Remède, parce qu'ils ont que des prestataires en Remède, donc une prestataire de Remède qui vient pour la visite d'expro, établir le montant de l'appartement. Ça a été filmé en caméra cachée, ça a foutu la honte de ouf à Remède, et ils ont dû lâcher un gros pactole sur cette expropriation. Et après, du coup, l'essentiel de nos stratégies ensuite pour faire monter les prix des petits propriétaires, c'était de citer tout le temps ce cas-là pour faire monter le prix moyen. Donc ça, si ça arrive dans un quartier, je conseillerais ce truc-là, en fait, obtenir une vente stratégique qui arrange de ouf les habitants, ça permet ensuite, les affaires des uns dépendent de celles des autres. En fait, le prix d'expropriation, c'est un peu une moyenne des 5-10 dernières ventes qui ont eu lieu à proximité. Donc il y a vraiment un enjeu à être solidaire entre propriétaires occupants dans ces cas-là, pour essayer de faire monter les prix.
Ouais, c'est hyper intéressant. Et bon, moi, ce que je me dis aussi en t'écoutant parler, c'est que Euromed a l'air d'apprendre de ce qu'ils font avant et des levées de boucliers qu'ils ont pu avoir et de comment les gens se sont organisés. Et du coup, bah, un des enseignements des luttes pour nous qui militons contre toutes ces injustices, bah, c'est aussi en fait de regarder comment Euromed s'adapte et puis bah, de s'adapter à notre tour pour pas se faire avoir, quoi.
Ouais, totalement. Et c'est du coup important qu'on fasse cette émission aujourd'hui à la Friche, donc au cœur de la Belle de Mai. Étant donné qu'on sait que, parce que c'est vrai que je ne sais plus si on l'a dit, mais quand même beaucoup des expropriations et des délogements aux crottes, ils étaient dus au fait qu'il y avait l'arrivée d'un tram, qui arrive évidemment seulement au moment où arrivent les nouvelles résidences pour classe supérieure, alors que ça fait longtemps en effet que les gens demandent des transports publics. Et on sait qu'un tram va traverser la Belle de Mai. Je pense que c'est important de s'organiser très tôt face à ce type d'aménagement, notamment parce que, et c'est ça la force de Remède, ils sont capables en gros de noyer le poisson et de faire genre qu'ils discutent de tout un ensemble d'enjeux d'aménagement, où est-ce que passera le tram, où est-ce qu'il y aura un parc, etc., pendant que leur équipe foncière, qui elle est le vrai cœur du réacteur de Euroméditerranée, prépare le terrain encore une fois pour faire baisser les prix, se dérouiller pour ensuite faire partir rapidement les locataires, éviter les squats avec tout un ensemble, on en a pas parlé, mais plein de techniques pour éviter le squat, bref. Ils mettent en place tout un ensemble de techniques en soum-soum. Durant cette phase un peu préparatoire, où on a l'impression qu'on discute, etc., eux, ils s'activent, faut se dire, en moyenne 10 ans avant nous, en fait. Donc là, si le tram est censé arriver dans les quelques années à venir, c'est qu'ils ont déjà commencé de déployer ces premières techniques et que c'est le moment d'essayer de s'organiser. On peut pas trop en dire aujourd'hui parce que c'est un truc en cours, ça va se construire, mais il y a du coup tout un ensemble de collectifs dans la Belle de Mai qui réfléchissent à s'organiser, à justement s'inspirer de l'expérience d'Herbel, s'inspirer de l'expérience du 5 novembre, s'inspirer d'autres expériences qui ont lieu dans d'autres quartiers de France, je pense à l'Almagar, bref, à Ivry, petite dédicace du coup au passage, où des chartes ont été obtenues, on a un peu pour envie en tout cas d'essayer de produire un document, en tout cas quelque chose qui les encadre et qui évite que la Belle de Mai subisse la même chose que les crottes ont subi il y a quelques années.
Ok, et c'est vrai qu'on a rencontré un membre de l'asso Qu'est-ce qui se trame, et il nous parlait de 150 logements minimum qui pourraient être détruits, rien que sur la portion entre la rue Loubon et la place Burel. Donc voilà, on se dit qu'il y a des négociations qui sont en cours et qui excluent totalement les personnes qui habitent là et qui peinent à obtenir des informations aussi. J'ai l'impression qu'il y a très fort ce truc qui est sorti pendant nos émissions du manque d'informations, de toujours devoir creuser, chercher et en fait de tâtonner à l'aveugle. Ça, vous avez envie de conclure là-dessus notre émission peut-être?
Ouais, peut-être que l'incertitude, en effet, c'est pas une carence d'infos ou une erreur de la part des institutions de la rénovation urbaine, c'est une stratégie, maintenir le flou, entretenir l'imprévisibilité, fragmenter les choses dans le temps, ne rien dire, laisser courir les rumeurs, en fait, c'est leur force principale, et je pense que c'est important de se dire ça et de se réveiller à temps.
Et juste une petite correction, on ne l'a pas rencontré, c'est un article sur le web, je tenais...
Ah, mais tu ne l'as pas rencontré, en fait.
Non, je ne l'ai pas rencontré.
Mais c'est... la merde.
On va s'arrêter là pour ce soir et rendre l'antenne. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois, à vous quatre aussi, d'être venus aujourd'hui et rester sur les ondes de Radio Galère.
Et pour qui ? Et pour qui ? La liberté, l'égalité, fraternité, solidarité, du respect, un bout de papier. Oh, you're not mine.